L'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Exactement 6h15 à Bukavu, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue pour suivre ce Radio Journal. Le fil de l'information en trois titres, le vice-gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Lacanau, appelle la population à soutenir l'initiative du chef de l'État, Félix Tshisekedi, visant à changer la constitution du pays, l'a déclaré. Le week-end dernier, au cours d'une matinée politique organisée dans la ville de Bukavu, tout autant pour le sénateur Norbert Basengezi Katintima qui l'a déclaré hier à son arrivée dans la ville de Bukavu. À quelques jours de la fin de l'année 2024, les routes nationales dont la RN2 Bukavu-Goma et la RN3 Miti-Ombo sont toujours impraticables malgré les multiples promesses du gouvernement national. L'impraticabilité de ces infrastructures d'intérêt national est parmi les grands éléments qui sont à la base de mauvaises conditions socio-économiques de la population en territoire de Calais. Ainsi le rappelle le cadre de concertation de la société civile dans cette partie de la province du sud Kivu. Au total, des 157 cas de violations commises contre les défenseurs des droits humains et les journalistes ont été recensés au cours de l'année 2024. Plusieurs procès publics ont été organisés contre les seigneurs des guerres au sud de Kivu. Condensé dans la deuxième partie de ce radiojournal consacré à la rétrospective sur la justice et les droits humains. Voilà tout pour le sommaire.
Ce journal vous est présenté par Expedia Kialou.
Politique au début de ce radiojournal. Le vice-gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Lacanau, appelle la population à soutenir l'initiative du chef de l'État, Félix Tshisekedi, visant à changer la constitution du pays, ceci pour lui permettre de bien gérer la RDC à la satisfaction de ses administrés. Message lancé le week-end lors d'une matinée politique organisée au siège de l'UDPS, ville de Bukavu, sur avenue Kibombo, en commune d'Ibanda. Détail, Hélène Boudjeriri.
Dans son speech, Jean-Jacques Lacanau explique que la constitution actuelle a été rédigée par des belligérants ne tenant pas compte des aspirations du peuple congolais. Il estime que son changement ou sa modification donnera une manœuvre au président de la République, lui permettant de diriger pour un avenir meilleur en faveur de toutes les Congolaises et tous les Congolais. Cadre de l'UDPS, le vice-gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Lacanau, annonce poursuivre cette campagne dans d'autres villes et territoires du Sud Kivu, afin que tous les Sud Kivuciens soutiennent cette initiative.
J'ai saisi de cette occasion pour demander aux Sud-Kivuciens et aux Sud-Kivuciens d'accompagner le chef de l'État dans sa vision. Nous avons une constitution rédigée par les belligérants. Nous comptabilisons plus de 20 ans. Nous devons adapter les choses. Nous le faisons pour les générations futures. Nous sommes déjà dans la rue pour sensibiliser notre peuple à accompagner le chef de l'État. Quant à ce qui concerne, il se distingue par des actions palpables. Bientôt, on va terminer la route Ngom. Qui pouvait faire ça pour nous? Il fallait attendre l'arrivée du fils de l'homme, Félix Tshisekedi Tshibeton. Donc, il y a lieu de l'accompagner pour l'encourager à faire mieux. Nous avons l'avantage d'avoir dans l'histoire de notre province la première dame.
À cette même occasion, il a annoncé doter la fédération de l'UDPS Sud Kivu 1 à Kavumo, territoire des Kabarés, d'une parcelle de 15 000 $ américains et même les travaux de construction du bâtiment qui abritera son siège. Jean-Jacques Lacanau promet de faire la même chose dans les territoires d'Ouvira et Fizi. Profitant de cette occasion, le vice-gouverneur du Sud Kivu a lancé une mise en garde aux personnes de mauvaise volonté qui cherchent à l'opposer à son titulaire Jean-Jacques Borossi Sadiki. Il précise que les relations sont bonnes entre lui et le gouverneur, d'où l'appel à l'apaisement.
Et dans la foulée, le sénateur Norbert Basengezi Katintima indique que son parti, l'ANC, soutient le projet de la révision de la constitution initiée par le président de la République. Il a dit hier dimanche 29 décembre 2024 à son arrivée au Sud Kivu dans le cadre de ses vacances parlementaires. On l'écoute dans cet extrait.
accompagné du président national à l'intérim, l'honorable Mamadi Soussen, trois secrétaires généraux adjoints, deux en provenance de Goma et un en provenance du Congo central. Nous venons avec l'interfédéral aussi du Nord Kivu pour souhaiter nos meilleurs voeux à la population du Sud Kivu, mais aussi entrer en vacances parlementaires. Nous devons donner des rapports de ce que nous avons vécu, parce qu'on nous a envoyé. Il est inconcevable qu'on puisse passer un mois à Kinshasa après les vacances et que nous ne dormions pas dans les 8 territoires. Moi, je suis sénateur. Mon mandat n'est pas le mandat d'une circonscription. Ma circonscription, c'est le Sud Kivu. C'est pourquoi je vais dormir dans la première circonscription aujourd'hui, c'est à Kabare. Le premier message, c'est un message de la paix. Mon message crucial, c'est celui de donner rapport et donner la position de mon parti quant à ça. Les forces politiques et sociales sont des forces politiques et sociales, comme il y a d'autres forces politiques et sociales qui soutiennent mon parti et pour la réforme institutionnelle. Mon parti est pour la réforme ou la révision constitutionnelle. Mon parti est pour la réforme ou les réformes même électorales.
Suivez Radio Maendeleo en direct partout dans le monde sur www.radiomaendeleo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Maendeleo. Radio Maendeleo, c'est vous.
La suite de ce radio-journal, la société civile dans la chefferie Tambouka en territoire d'Idji plaide pour une assistance urgente en faveur des habitants du village Bukenge, dont les champs et maisons ont été détruits lors des pluies accompagnées d'un vent violent qui se sont abattus sur la majeure partie du territoire d'Idji. Dans un entretien avec Radio Mandelo, le chef du village Bukenge, Baleka Gerubenga, indique que pendant qu'il pleuvait, 16 maisons ont été détruites et plusieurs champs dévastés. C'était le 18 décembre 2024. Pour sa part, le président de la société civile dans la chefferie Rubenga, Didier Bouramouliri, demande aux autorités et aux partenaires de venir en aide ses compatriotes. Il en parle au micro de notre permanent à Idji, Richelieu Biamana.
Il y a vraiment eu plusieurs maisons endommagées. Il y a eu des champs des paysans détruits, hein, parce qu'il y avait des haricots à la période de maturation. Il y avait des maïs à la période de maturation. Plusieurs champs des bananiers sont tombés par terre. Les champs sont restés vides, d'ailleurs exposés même à l'érosion. Et si le vent revient, va encore emporter d'autres maisons, parce que au niveau particulier du village Bukenge, on risque de connaître un problème de famine, mais qui va se généraliser aussi autour des villages voisins. Nous demandons à toute personne de bonne foi, les ONG internationales, les ONG nationales, les ONG locales, les personnes qui peuvent avoir des moyens, c'est vraiment une urgence de pouvoir venir et aider ces communautés à se relever.
Et pendant ces temps, à quelques jours de la fin de l'année 2024, les routes nationales dont la RN2 Bukavu-Goma et la RN3 Mitiombo sont toujours impraticables malgré les multiples promesses du gouvernement national auprès de la population en ce qui concerne leur asphaltage l'asphaltage de ces deux routes. L'impraticabilité de ces deux infrastructures d'intérêt national est parmi les grands éléments qui sont à la base des mauvaises conditions socio-économiques de la population en territoire de Calais. Le cadre de concertation de la société civile du territoire de Calais invite le gouvernement national à matérialiser ses différentes promesses en envisageant dans l'urgence les débuts des travaux d'asphaltage de ces deux routes. Delphin Birimbi, président du cadre de concertation territoriale de la société civile de Calais, en parle.
Nous sommes presque à la fin de l'année 2024. Fort malheureusement, les routes nationales, à l'occurrence de la RN2 Bukavu-Goma et RN3 Mitihombo, sont toujours impraticables malgré les différentes promesses du gouvernement national et ses partenaires à ce qui concerne le projet d'asphaltage. Et cette impraticabilité exagérée des deux infrastructures d'intérêt national est parmi les grands éléments qui sont à la base des mauvaises conditions socio-économiques de la population de notre territoire. et pour décharger la population du territoire de Calais, nous continuons à demander au gouvernement national de matérialiser ces différentes promesses en débitant dans un délai raisonnable les travaux de construction des deux routes.
Delphan Birimbi, président du cadre de concertation territoriale de la société civile de Calais. Et avec vous, Ricky Ombeni, les opérateurs économiques membres de la Fédération des entreprises du Congo qui exercent leurs activités commerciales au marché de Kiziba, en groupement des Ikama, Kasanza, chefferie de Wakabango Premier et au centre des négociations en territoire de Chabunda suspendent leur activité dans cette partie de la province. Ces derniers justifient leur décision par le fait qu'ils sont victimes des actes de torture, des saisies illégales de leurs marchandises et des actes inhumains de la part de certains taxateurs du milieu.
C'est ce qu'on peut lire dans une correspondance adressée au chef de la chefferie de Wamuzimu avec copie à Radio Maindeleo. Dans cette correspondance, les signataires font référence à la date du 9 décembre dernier lorsque trois opérateurs économiques ont vu leurs marchandises saisies illégalement avant de subir des actes de torture au marché de Kiziba. Ces vendeurs connus dans les milieux ont été torturés par certains taxateurs qui ont fait recours à la violence pour exiger de l'argent et d'autres viennent avec des éléments armés qui se présentent comme Wazalen pour tracasser les opérateurs économiques, lit-on dans cette correspondance. Ces agissements ne facilitent un bon climat pour le déroulement des activités commerciales, mais aussi portent atteinte à la sécurité physique et mentale des opérateurs économiques, s'indignent les signataires. Ne pouvant plus supporter, ces opérateurs économiques suspendent leurs activités dans cette partie de la province. Ainsi, ils sollicitent l'implication du chef de la chefferie de Wamuzimu et d'autres autorités de s'impliquer afin de trouver une solution en sécurisant les opérateurs économiques qui font tout pour approvisionner la population.
Et l'insécurité alimentaire occasionnée notamment par les maladies qui frappent le sol et les mauvaises pratiques agricoles, l'insécurité caractérisée par la violation des droits humains, la pauvreté accrue malgré la présence des gisements miniers, c'est parmi les grands problèmes qui empêchent l'essor du territoire de Chabunda, en plus de l'enclavement caractérisé par l'absence des routes et l'inaccessibilité aux services sociaux de base. La suite avec Hélène Boudjiriri.
Ces problèmes et tant d'autres ont été évoqués par les membres de la Fondation Salumu Kasilembo Sodi Ledidi, réunis en Assemblée Générale le samedi 28 décembre dernier. À cette occasion, les membres de cette fondation sont revenus sur les différentes réalisations durant l'année 2024 et comment ils ont pu accompagner la population dans le développement de leurs économies, particulièrement des activités agricoles et l'élevage. Il en ressort que plus de 20 comités locaux ont été redynamisés et sensibilisés, plusieurs associations villageoises d'épargne et de crédit mises en place et d'autres renforcées en gestion, l'appui aux structures de santé et l'octroi des dotations pour relancer l'agriculture et l'élevage. Malgré les défis liés aux moyens financiers et l'inaccessibilité de certaines zones, les membres de la Fondation Salumu Kasilembo ont résolu de travailler encore dur pour apporter le développement en Provence, particulièrement à Chabunda, qui est son territoire pilote. Son président du conseil d'administration, Gabriel Amissi, en parle.
On a été dans les activités agro-pastorales, c'est-à-dire l'agriculture et l'élevage. En ce qui concerne cette activité agro-pastorale, nous sommes vraiment à 70%. La population s'est appropriée cette activité. Pour la Fondation Salomon Kasilembo Sodi Ledi, c'est une organisation humanitaire. Nous sommes tous ceux qui veulent adhérer dans la Fondation Salomon Kasilembo Sodi Ledi. La porte est grandement ouverte. En ce qui concerne les perspectives d'avenir, en 2025, nous comptons toujours renforcer toujours des capacités. Toujours nos comités locaux à ce que s'approprient eux-mêmes cette activité.
Signalons qu'à la même occasion, de nouveaux membres ont été présentés et briefés sur la vision.
Et l'organisation Lubunga Luafizi Tombwe vient de décerner un diplôme de mérite au chef de secteur de Nganja, Akili Bernard Cosmos, pour ses efforts visant à apaiser les tensions entre la communauté Bafuliru et Babembe. La cérémonie de remise de ce diplôme s'est déroulée à Baraka, dans le territoire de Fizi. Le point avec Ricky Ombeni.
Cette organisation dit agir ainsi pour couronner les efforts consentis par les lauréats dans la restauration de la paix et le bien-être communautaire en territoire de Fizi en général et dans le secteur de Nganja en particulier. Grâce aux efforts du chef de secteur de Nganja, Akili Bernard Cosmos, les chefs de groupement et de village ont pu se regrouper jusqu'à résoudre les différends qui les opposent, explique l'organisation Lubunga Luafizi Tombwe. Satisfait de cette récompense, le chef de secteur de Nganja, Akili Bernard Cosmos, dit et soutenir également les efforts du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour le maintien de la paix et la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo.
De restaurer l'autorité de l'État, la sécurité, la stabilité, et cela s'est prouvé par rapport aux différentes réunions du genre communautaire organisé par-ci, par-là, au chef-lieu du secteur de Nganja, à Lubonja, à Kipimo, voire même étalé plus loin, dans les secteurs voisins des Babouyou, juste chercher la cohésion sociale entre les Babouyou et les Babembe. À Kipimo, la cohésion sociale entre les Bafuliru et les Babembe, et la situation était relativement calme jusqu'à aujourd'hui.
Outre cette récompense, l'organisation Lubunga la Fizi Tombe salue également certaines œuvres réalisées par les chefs du secteur de Nganja. C'est entre autres la dotation des tôles au poste de santé de Kibamba et à l'Institut Kazimia, la construction des hangars à Kikonde, la remise des matelas et des couvre-lits au poste et centre de santé de la région et l'ouverture de plusieurs routes des avenues à Fizi Centre, en plus de la dotation de plus de 250 chaises à la salle polyvalente à Lubunga. Dans le domaine de l'agriculture, le chef du secteur de Nganja a initié la culture de plus de 3 hectares de légumineuses et 1 hectare de manioc pour la multiplication des semences en faveur des agriculteurs locaux.
Et dans le cadre de communier avec les clients qui achètent les motos et pièces de veste de la société Kinshop, 23 personnes ont gagné différents prix à l'occasion d'une tombola organisée dans la ville de Bukavu. C'était le samedi 28 décembre au cours d'une activité irrelative tenue à son siège sur avenue Patrice Emery Lumumba, non loin de la Sonas en commune d'Ibanda. Parmi les 23 gagnants, 10 ont été meilleurs et ont reçu des motos, des cuisinières, des télévisions et bien d'autres. En croire le chargé de marketing de la société Kinshop Bukavu, Jonathan Lubambo, seuls les clients qui ont acheté les motos ou pièces de réchange durant la période allant du 1er octobre au 28 décembre étaient concernés par cette tombola, tout en invitant la population à faire confiance à la société TVS. Son chargé de marketing à Bukavu précise que c'était également une question de fidéliser la clientèle aux produits TVS et lui permettre de bien commémorer les fêtes de fin d'année. Jonathan Lubambo en parle.
C'était la spéciale tombola pour les clients qui achètent les produits des marques TVS, c'est-à-dire les motos TVS et les pièces des marques TVS. Nous avons voulu partager avec eux cette fin d'année en termes de communion, pour partager avec eux cette festivité de la fin de l'année et aussi pour essayer d'échanger avec eux pour l'année 2025 qui va commencer. Il y avait 23 gagnants, mais il y avait 10 meilleurs gagnants.
De leur côté, les participants à cette tombola louent la transparence qui a caractérisé cette activité. L'un des bénéficiaires, Mouchagaloussa Makelele, bénéficiaire d'une moto, remercie la société Kinshop pour cette surprise, alors qu'au départ, il prenait cela comme une blague. Ce dernier s'est dit agréablement surpris et invite la société Kinshop à continuer ainsi. On l'écoute.
Il n'a pas de cadeau, il y a... Moto.
Je viens de recevoir le cadeau d'une moto à 5 vitesses. J'avais payé une moto seulement. Il m'avait remis un jeton pour la tombola et 6 litres gratuits de carburant. Je suis très heureux. Que Dieu bénisse Kinshop.
Plusieurs autres surprises ont été remises aux gagnants, comme des sacs de riz, de sucre, de la farine, de semoule et des pagnes avec la belle Kinshop. Sport, avant la rétrospective de l'année, l'AS Maniema Union a réussi une fin magnifique en venant à bout de la Sekouya Sport hier dimanche, en clôture de la 9e journée du championnat national, la Ligue 1 de la Lina Foot, Illico Cash à 3-2. C'est le score au terme de cette rencontre. Cette victoire profite donc à Maniema Union qui signe son 6e succès de la saison et revient en tête du classement de ce groupe B avec désormais le même nombre de points, 20 points que son dauphin, et des matchs en retard. L'équipe de l'AC Rangers par contre, Kouya, maintient sa 7e place avec 15 points au classement. Toujours pour le camp de ce championnat, deux rencontres ont eu lieu dans la partie est du pays le samedi dernier avec des défaites des géants de Kinshasa. D'abord, à Bukavu, étoile du Kivu s'est imposé devant le Darek Le Motema Pembe Sampé sur la note d'un but à 0, but marqué par Eyo Sadino à la 88e minute. Au terme de cette rencontre, le milieu de terrain Bondo Parfait a été désigné homme du match. C'est donc un joueur du FC Étoile du Kivu. En revanche, à Goma, Dauphin Noir s'est imposé devant l'ASV Club de Kinshasa sur le même score, c'est-à-dire 1-0, dans une rencontre disputée au stade de l'unité de la ville de Goma. Et par ailleurs, les Léopards de la RDC seront bien présents au championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025 qui aura lieu en Ouganda, en Tanzanie et au Kenya. Les Congolais ont réussi à se qualifier en battant 3-1 les Sao du Tchad. C'était le samedi dernier à Kinshasa au stade des Martyrs. Au match aller, les deux équipes s'étaient quittées sur le nul d'un but partout. La deuxième partie de ce radio-journal, 257 cas de violation commises contre les défenseurs des droits humains et des journalistes ont été recensés au cours de l'année 2024. Pendant cette année, plusieurs procès publics ont été organisés contre les seigneurs des guerres à travers la province du sud Kivu. Le condensé de la rétrospective Justice et droits humains vous est proposé à présent. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour suivre la rétrospective consacrée à la justice et aux droits humains. Déjà en début d'année 2024, le 11 janvier, le tribunal militaire de garnison de Bukavu condamne à perpétuité le soldat Lukusa Kabeya Gabi pour meurtre d'un civil à Mouloulou en territoire de Kabare. La victime aurait refusé de se faire extorquer son téléphone par le condamné. Le procès se tient en chambre foraine. Deux griefs sont retenus à charge, notamment le meurtre et la violation des consignes. S'agissant de l'infraction du meurtre du feu Iragi, le tribunal condamne le prévenu à la peine de mort. S'agissant de la violation des consignes, le tribunal le condamne à 10 ans. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, le tribunal condamne les prévenus Lukusa Kabeya à la peine de mort. La partie est sommée de payer une amende de 30 000 $ américains payable en francs congolais. Au mois de mars, Louis Mars, en RDC, 20 ans de prison et la peine requise par le ministère public contre le journaliste Stanis Boudjakera Chamala. Le directeur adjoint du média Actualité.cd et correspondant de Jeune Afrique et de Reuters est accusé d'avoir fabriqué des documents incriminant les renseignements militaires congolais dans la mort de l'opposant Chérubin Okende. Correspondant à Kinshasa du magazine Jeune Afrique, Stanis Boudjakera a été arrêté depuis octobre 2023. Le 18 mars, le tribunal des grandes instances de Kinshasa Gombe condamne le journaliste Stanis Boudjakera à 6 mois de prison et 400 $ d'amende contre les 20 ans et 7 500 $ d'amende requis par le parquet. Cette condamnation signifie que le journaliste est libre le temps d'accomplir les formalités à la prison centrale de Makala car il correspond à la période de sa détention préventive. Au mois d'avril, le mercredi 3 avril, 8 détenus bandits des grands chamans évadent du cachot du parquet près le tribunal des grandes instances de Kavumu en territoire de Kabare. Le commandant du détachement de police après cette juridiction, le commissaire Ephraim Kanakanjo, explique qu'il s'agit de 8 détenus, tous placés sous mandat d'arrêt provisoire et qui devraient être transférés le jeudi 4 avril 2024 à la prison centrale de Bukavu. Celui-ci indique que les faits se sont déroulés aux environs de 18 heures lorsque les détenus ont démoli le plafond du cachot avant de commencer à sortir un à un, alors que le policier commis à la garde descendait le drapeau. Ayant remarqué le mouvement après avoir fini de descendre le drapeau, le policier commis à la garde a tiré des balles de sommation, ce qui a empêché les 10 autres détenus de sortir par la même voie du plafond, explique le commissaire Ephraim Kanakanjo. En clair, sur les 18 détenus qui étaient, 8 se sont échappés. Le jeudi 4 avril, 6 requêtes introduites en matière de contentieux des candidatures des gouverneurs et vice-gouverneurs sont introduites en audience à la Cour d'appel du Sud Kivu. Cette juridiction instruit les 6 requêtes comme cour administrative d'appel. En audience, l'AFDC a soutenu deux requêtes introduites toutes contre la CENI et les candidats gouverneurs Boussou Bouangui, Chombo Patrick et Jérémy Bassimane. En revanche, le candidat Didier Kamere, qui s'est dit lésé par la décision de la CENI, indique par le biais de son conseil avoir démissionné de l'Union pour la Nation Congolaise UNC depuis le 15 février, ce que conteste le parti de Vital Kamere. Pour ce qui est du candidat Jean-Jacques Pouroussi, poursuivi pour la double nationalité, sa défense confirme que ce dernier est bel et bien un citoyen congolais qui dispose de la plénitude de ses droits sociopolitiques et met au défi quiconque qui est capable de prouver la nationalité belge de leurs clients. Au mois de mai, le 9 mai, l'Organisation Partenariat pour la Protection Intégrée PPI documente 36 nouveaux cas de violations et abus contre les défenseurs des droits humains, les journalistes et les médias en RDC du 1er au 30 avril 2024. Cette organisation œuvrant pour la promotion de la paix et de la protection des défenseurs des droits humains, les dit dans son feuillet publié le 9 mai 2024, et dont copie est parvenue à Radio Mandeleo. À Bukavu, dans la province du Sud Kivu par exemple, 3 étudiants de l'ISC Bukavu ont été arrêtés et 2 complices dans la prison centrale pour avoir manifesté pour réclamer la suppression des $20 américains ajoutés aux frais académiques et la réintégration du porte-parole de leur institution exclue définitivement pour avoir porté haut la voix de ses camarades dans cette lutte, indique PPI. Toujours au sud Kivu, une tentative de musellement de la presse a été déplorée à l'Assemblée provinciale où l'accès dans les installations de cette institution a été interdite à certains journalistes pourtant accrédités pour couvrir les élections des sénateurs et du gouverneur de la province, poursuit notre source. Le 1er juin, PPI rapporte que 22 cas d'atteinte à la liberté de la presse sont documentés depuis janvier 2024 à l'est de la RDC. Ces chiffres sont livrés par Jonathan Magoma, directeur des programmes de PPI en RDC, au cours d'une conférence de presse tenue à son bureau situé sur avenue Calais, en commune d'Ibanda. Le mardi 18 juin, plusieurs militaires et policiers comparaissent devant le tribunal militaire de garnison de Bukavu, siégeant en chambre foraine au premier degré à Katana, en territoire de Kabare. Au total, 10 dossiers sont instruits et concernent des infractions commises dans la période allant de 2018 à 2023. Les éléments concernés sont poursuivis pour plusieurs chefs d'accusation, notamment les uns pour crimes contre l'humanité par viol, esclavage sexuel et meurtre, les autres pour viol. Ces crimes ont été commis, certains à Bunyakiri en territoire de Calais, à Katana et Nyamunyuni en territoire de Kabare et d'autres en territoire de Mwenga. Pour la journée du mardi 18 juin, 3 dossiers ont été instruits. Ce procès se déroule au bureau du groupement d'Irambi Katana en territoire de Kabare. Le mercredi 19 juin, la Ligue pour les droits de la personne dans les grands lacs LDGEL en sigle est l'organisation qui prend le lead du comité de suivi des mécanismes de protection des défenseurs des droits humains au sud Kivu CMPDDH en sigle. Les élections au sein de ces réseaux d'organisations de protection et défense des droits humains ont eu lieu au cours d'une assemblée générale organisée dans l'après-midi du mercredi 19 juin dans la salle de partenariat pour la protection intégrée PPI qui en assurait jusque-là le lead. Au cours de la même assemblée générale, le réseau universel des amis et défenseurs des droits de l'enfant, RUD en sigle, a été élu comme co-lead et SOS Justice a reçu la confiance des membres pour occuper le poste de rapporteur. Le vendredi 21 juin, 7 militaires et policiers sont condamnés à des peines allant de 7 à 15 ans de servitude pénale principale et 2 autres acquittés faute de preuves. Ils étaient poursuivis la plupart pour viols commis entre 2018 et 2023, notamment à Kabare, Mwenga et Kalei. Après 4 jours d'audience, les jugements sont rendus par le tribunal des garnisons de Bukavu, siégeant en chambre foraine au premier degré à Katana. La peine la plus lourde de 15 ans a été retenue contre un militaire poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel, viol sur mineur, coups et blessures. Poursuivi pour viol sur 9 enfants à Nyamunyuni, un militaire du nom de Moussindi Modeste est condamné à 7 ans de prison. Le tribunal n'a pas disposé des preuves nécessaires confirmant qu'il a violé tous ses enfants. En revanche, des prévenus ont été acquittés. Ces audiences ont été organisées par le tribunal des garnisons de Bukavu en partenariat avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, et d'autres partenaires dont l'Association des femmes juristes congolaises, AFEJUCO, avec l'appui de Kivina Tiel Kivina. Le vendredi 27 juin, l'ancien ministre du Développement Rural François Robota et l'entrepreneur Mike Kasenga sont placés en détention provisoire à la prison centrale de Makala, selon des sources pénitentiaires. Ils sont soupçonnés de détournement des fonds publics destinés à des projets de lampadaires et de forages d'eau. Le parquet a également commencé à auditionner un autre accusé dans cette affaire des surfacturations présumées, le député national Nicolas Kazadi. Le vendredi 28 juin, le gouverneur Jean-Jacques Pourroussi rend public son gouvernement constitué des 10 membres et 3 secrétaires exécutifs et nommé ministre de la Justice, le député provincial Faustin Mayani. Le samedi 29 juin et le dimanche 30 juin, 4 détenus décèdent suite à une intoxication alimentaire dans la prison centrale de Bukavu. Selon le conseiller en charge des questions pénitentiaires au ministère provincial de la Justice, Pascal Katagondwa, un visiteur s'est revenu vendredi avec 3 jus qu'il a remis aux détenus. De ceux qui ont ingurgité ce jus, 4 sont décédés et 7 autres se sont retrouvés dans un état critique, explique Pascal Katagondwa. Au mois de juillet, déjà les 6, l'Organisation Partenariat pour la Protection Intégrée PPI documente 36 nouveaux cas de violations et abus contre les défenseurs des droits humains, les journalistes et les médias en RDC au mois de juin 2024 contre 26 au mois de mai. Dans la ville de Bukavu, au sud Kivu, PPI note l'agression d'un journaliste de Radio Mandeleo par les fanatiques du BC Ami Bec alors qu'il couvrait un match qui opposait cette équipe au BC Chon Sport. Le lundi 8 juillet, au total, 26 militaires sont condamnés par le tribunal militaire de garnison de Butembo au nord Kivu. C'était à la suite des audiences foraines publiques qui ont été organisées à Lubero, chef-lieu du territoire de Lubero. 22 ont été condamnés à la peine de mort, 3 à 10 ans de servitude pénale et un seul a écopé de 20 ans. Il s'est de rappeler que certains militaires ont fui la ligne de front suite à l'avancée des rebelles du M23 qui ont débordé jusque dans certains villages du territoire de Lubero, dans le grand nord de la province du Nord Kivu. Toujours en juillet, un total de 191 incidents de crimes graves commis contre la population civile au sud Kivu est recensé par le groupe de travail provincial sur la justice transitionnelle pour la période allant de 1994 à 2024. Ces cas sont documentés dans un rapport publié le lundi 15 juillet à Bukavu. Ce rapport vise à compléter la liste des crimes graves commis entre 1993 et 2003 déjà répertoriés par d'autres sources, notamment le rapport Mapping des Nations Unies. Cette recherche est réalisée avec l'accompagnement de Trial International en collaboration avec l'Initiative Congolaise pour la Justice et la PICJP. Le samedi 13 juillet, Radio Mandelo constate que les travaux de construction de la nouvelle prison centrale de Bukavu à Tchombo, village du groupement de Miti dans le territoire de Kabare, évoluent normalement. Selon le constat effectué sur place, l'heure est à l'étape de soulèvement de murs et au bétonnage. Ce constat a été fait à l'occasion d'une visite QD initiée par le parti politique Nouvelle Alliance pour la République NAR en sigle. L'objectif était de s'enquérir de la façon dont les travaux sont exécutés pour faciliter les bonnes conditions carcérales. Capable de contenir 3500 à 4000 détenus, l'ouvrage en construction est constitué de plusieurs blocs. 2 sont réservés aux mineurs en raison d'un pour les garçons et d'un autre pour les filles. 2 autres sont réservés aux adultes selon leur distinction de sexe. À part ceci, chaque cellule a une toilette de secours et chaque bloc contient une aire sanitaire, un dépôt et une cuisine. Le lundi 22 juillet, le tribunal militaire de garnison d'Ouvira siégeant en chambre foraine à Mboko, chef-lieu du secteur de Tanganyika en territoire de Fizi, condamne à la peine de mort 3 prévenus dans l'affaire de l'assassinat de 4 personnes à Mboko, dont le Mwami Charles Sadi Simbi en date du 22 juin 2024. Les prévenus étaient poursuivis des préventions de meurtre, tentative de meurtre, violation des consignes et dissipation de munitions. Ces prévenus sont Akili Kamare Bolingo, Mazingula Matamba, qui était garde du corps du feu Mwami Charles Simbi, et Akiza Shimire, tous militaires FARDC. Ces 3 militaires FARDC ont également été condamnés une solide d'homme avec l'État congolais au paiement des dommages à intérêts élevés à 250 000 dollars américains pour chacune des parties civiles. Un des prévenus, à savoir Elimbo Limbo, militaire FARDC du grade adjudant au département de sécurité des défenses DSF, ne s'est pas présenté aux audiences alors qu'il était présent sur la scène du crime. La justice militaire a promis de le rechercher activement afin qu'il soit entendu devant son juge naturel, explique des sources au sein de l'administration du secteur de Tanganyika. Le mercredi 24 juillet, un procès public s'ouvre devant la cour militaire de la Gombe à la prison militaire de Ndolo contre Corneille Nangam, ancien président de la commission électorale nationale indépendante CENI et actuel dirigeant de l'alliance Fleuve Congo AFC et 24 autres prévenus pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison dans l'est de la RDC. Au mois d'août, Le 2, les jeunes Congolais sont appelés à briser le silence et dénoncer les crimes et massacres commis dans l'est de la RDC depuis plusieurs années. L'appel est du collectif des jeunes Congolais de la diaspora réunis au sein de l'organisation congolaise Action, YAF Action, en marge de la journée commémorative du génocide congolais ou génocide pour des gains économiques, Génocost en sigle célébré le 2 août de chaque année. Le même jour, l'action initiée en justice par certains abonnés du réseau de télécommunications RTL est déclarée irrécevable par le tribunal de commerce de Bukavu. Le demandeur principal, la Claude Barimagne, a sollicité la réparation des préjudices causés par RTL suite à la qualité des services offerts par cette société de télécommunications. Le requérant sollicite une réparation à hauteur de 125 000 $ américains, accusant RTL d'avoir provoqué des dommages dans son chef à cause de la qualité de ses services. En cours du procès, les avocats de la société RTL ont soulevé deux exceptions. L'une d'elles consistait à dire que la requête s'est trompée sur la personne attaquée en justice. La personne morale avec pour nom RTL RDC Congo SA tel que mentionné dans la requête est différente des RTL Congo RDC SA qui est le vrai nom de la société, ont soutenu les avocats de la défense. Dans son jugement, le tribunal déclare les deux exceptions recevables et fondées. Par conséquent, le tribunal déclare l'action principale irrécevable, ce qui signifie que l'action initiée contre RTL tombe caduque. Par ailleurs, ont-ils ajouté, entre la société RTL et ses abonnés, il y a plutôt un contrat d'adhésion qui n'oblige personne à y adhérer. Le jeudi 8 août, Corneille Nanga, coordonnateur de l'AFC, est condamné à mort par la cour militaire de Kinshasa Gombe. Il est reconnu coupable de crimes de guerre, de trahison et de participation à un mouvement insurrectionnel. La cour souligne son rôle en tant que chef hiérarchique dans ses activités criminelles. Le procès qui avait débuté le 24 juillet 2024 a vu 25 personnes être poursuivies aux côtés de Corneille Nanga. Le 13 août, l'organisation PPI publie un rapport qui documente 26 nouveaux cas de violations et abus contre les défenseurs de droits humains, les journalistes et médias en RDC pour le mois de juillet 2024. Pour le mois de juillet, PPI note une diminution des cas par rapport au mois de juin dernier où 36 cas ont été répertoriés. Le mercredi 14 août, l'ex-ministre du Développement Rural François Robot-Tamasumbuko bénéficie d'une liberté provisoire. Il a quitté le soir la prison centrale de Makala après 49 jours de détention précise. Plusieurs sources parmi lesquelles ses avocats. Le samedi 24 août, la chambre provinciale des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel du Sud Kivu se dote d'un règlement intérieur. C'était lors d'une assemblée générale irrélative tenue dans la grande salle de l'INPP à la Botte en commune d'Ibanda. Ce règlement ainsi adopté permettra aux huissiers de justice de relever certains défis dans leur secteur, a précisé Maître Barak Kabourou Meblaise, président de la chambre des huissiers de justice près la cour d'appel du Sud Kivu. Le mardi 27 août, 28 détenus sont libérés de la prison centrale de Bukavu et des Amigos à travers les trois communes du chef-lieu de la province. Il s'agit de 11 dans la prison centrale qui ont été libérés et 17 autres des cachots et Amigos de la police respectivement dans la commune d'Ibanda et de Kadutu. Le vendredi 30 août, un dialogue interactif est organisé à Bukavu par le comité de suivi des mécanismes de protection des défenseurs des droits de l'homme, CMPDDH en sigle, entre les autorités et les défenseurs des droits humains. L'objectif est d'améliorer la collaboration et l'environnement des travail afin de favoriser une compréhension commune au travail entre les défenseurs des droits de l'homme et les autorités étatiques, mais aussi encourager la culture des débats et échanges d'idées. Au mois de septembre, le jeudi 26 septembre, le comité de suivi des mécanismes de protection des DDH réclame justice en faveur de Dieudonné Barondé Zelouchombo, agent de la Caritas Bukavu, tué par un Muzalendo le jeudi 19 septembre à la barrière Cholobera en territoire de Kalehe, alors qu'il était en mission de service. Ceci est contenu dans un mémorandum déposé au gouvernorat des provinces au terme d'une marche pacifique organisée à Bukavu. Habillés certains en t-shirt de couleur blanche avec l'image de leurs collègues assassinés, d'autres en tenue de couleur noire, les défenseurs des droits humains et agents des organisations humanitaires ont fait le pied de la place Moulamba jusqu'au gouvernorat des provinces où leur mémo a été lu et déposé. Le 26 septembre, le même jour, PPI rapporte 16 cas d'atteinte à la liberté de la presse dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et Tanganyika au cours de la période allant de mai à juillet 2024. Le 27 septembre, les infirmiers qui exercent à la prison centrale de Bukavu menacent d'entamer un mouvement de grève à partir de la semaine prochaine. Ils dénoncent le non-paiement de leurs primes des risques depuis le mois d'avril 2024. Dans une correspondance adressée au chef de division provinciale de la santé au Sud Kivu, les signataires rapportent que leur situation n'a pas encore été régularisée depuis la bancarisation de la paie des infirmiers. Un des infirmiers signataires, Bienda Moussaka Foster, rappelle que différemment à d'autres structures sanitaires, le centre médical de la prison centrale de Bukavu ne perçoit aucun frais auprès des détenus malades, car les soins à la prison sont gratuits. Au mois d'octobre, le mercredi 16 octobre, 54 cadres et agents de la Direction générale des migrations DGM prêtent serment comme officiers de police judiciaire au PJ à compétence générale. Ils l'ont fait devant le procureur de la République dans une cérémonie organisée à Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu. Au cours de cette cérémonie, le procureur de la République, Basile Moulumba Kabouya, exhorte les OPJ à sermenter, de rechercher personnellement et activement les infractions et d'en faire part à l'officier du ministère public. Le lundi 21 octobre, le tribunal militaire de garnison de Bukavu, siégeant en matière répressive au premier degré, poursuit l'instruction du dossier opposant le ministère public et partie civile contre des prévenus poursuivis pour crimes internationaux. Il s'agit des prévenus Dona Kengwa Omari et Amaninde Kotiri. Le premier, à savoir Dona Kengwa, est poursuivi pour mouvement insurrectionnel et crimes contre l'humanité pour viol, meurtre, esclavage sexuel, privation des libertés, torture et autres actes inhumains, alors que le second, Amanindeko, l'est pour la seule prévention des crimes contre l'humanité. L'instruction s'est poursuivie en audience foraine à Miti Centre devant le public dans la salle des réunions du groupement de Miti en territoire de Kabare. Ces audiences bénéficient de l'accompagnement des triennales internationales dans le cadre de la Task Force Justice Pénale Internationale, un réseau coordonné par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, et qui regroupe des acteurs nationaux et internationaux œuvrant pour la poursuite des crimes les plus graves. Le vendredi 25 octobre, ces gens dans l'affaire qui oppose le ministère public et partie civile contre deux prévenus, à savoir Dona Kengwa et Amanindeko, poursuivis pour crimes internationaux, le tribunal militaire de garnison de Bukavu poursuit son instruction en audience publique. Devant des centaines d'habitants, au total 11 victimes, survivantes et survivants sont passés pour témoigner des atrocités subies au cours de cette audience qui s'est tenue devant le bureau administratif du groupement de Miti. Toutes les victimes ont témoigné des atrocités, des viols massifs, esclavage sexuel, pillages, incendies des maisons, tortures, assassinats, enlèvements et déportations opérés par des éléments du groupe Force Populaire de Paix FPP sous la direction de Dona Kengwa, chef de plusieurs groupes, Raia Mutomboki. Le 30 octobre, les victimes de violations graves et massives des droits de l'homme et du droit international humanitaire commis depuis les débuts de la guerre en 1996 au sud Kivu et dans la ville de Bukavu en particulier réclament justice et une réparation juste. Il exprime dans un mémorandum adressé aux autorités à l'issue d'une marche pacifique organisée dans la ville de Bukavu. Dans ce mémorandum, ces victimes accompagnés par les organisations de défense des droits de l'homme, rappelle que plusieurs personnes ont été lâchement tuées, des femmes violées et autres enterrées à plusieurs endroits dans la ville de Bukavu. Au mois de novembre, le 5, Dona Kengwa Omari, commandant du groupe Force Populaire de Paix, une structure d'autodéfense constituée de plusieurs groupes Maïmaï Raya Mutomboki, est condamné à mort pour crime contre l'humanité par le tribunal militaire de garnison de Bukavu, siégeant en chambre foraine à Walungu. Son complice Amaninde Kotiri, pour sa part, est condamné à 10 ans de prison. Le jugement est prononcé dans l'avant-midi du lundi 4 novembre, après plus de 2 semaines d'instruction au cours des audiences tenues respectivement à Miti dans les territoires des Kabare et Walungu. Le 10 novembre, Maître Pascal Mupenda, acteur sociopolitique et défenseur des droits humains, réagit à l'arrêté interministériel portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère de la Justice le 28 août 2024. Il indique fixer à $50 américains comme frais d'ouverture d'un dossier en justice limite l'accès à la justice pour plusieurs citoyens, plus particulièrement les vulnérables, qui sont d'ailleurs les plus nombreux sur l'étendue du territoire national. En clair, les mises à justice garde de Sceaux, Constant Mutamba et celui des finances Doudou Fouamba obligent tout celui qui veut saisir la justice de payer $50 à l'avance au lieu de 5 et 10 dollars qui étaient exigés avant. Le 6 novembre, le chef de l'État Félix Tshisekedi procède au lancement des travaux des États généraux de la justice sur le thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle qualifiée de malade? Quelle thérapie face à cette maladie ?» Il était question au cours de ces travaux de faire un diagnostic, une autopsie de la situation de la justice congolaise et proposer des solutions et des réformes pour pouvoir relever ce secteur de la vie nationale. Le 7 novembre, le Bureau de coordination de la société civile encourage le le gouvernement de la RDC a tiré profit des états généraux de la justice pour restaurer réellement la justice par l'éradication de l'impunité et la lutte contre les détournements des deniers publics. L'ancien civil Force Vive le dit dans une déclaration en marge des travaux des états généraux de la justice qui sont lancés le mercredi 6 novembre. Au mois de décembre, le jeudi 5 décembre, siégeant au degré d'appel, la haute cour militaire de la RDC rend son verdict dans l'affaire opposant le ministère public aux 26 prévenus membres du mouvement politico-militaire Alliance du fleuve Congo. Dans sa décision, la plus haute juridiction militaire du pays confirme l'œuvre du premier juge en condamnant à la peine de mort les 5 prévenus qui ont comparu physiquement et formé appel pour les infractions de trahison et de participation à un mouvement insurrectionnel. Il s'agit d'Eric Nkumba, Chebandou alias Malembe, Samafu Makinu Nikez, Denanga Baseya Nerutens, Demkianga Nyamachaba alias Samikrobe et de Safari Bichori Luc. Quant à Corneille Nanga et les 20 autres prévenus condamnés par défaut au premier degré, la haute cour décide de sursoir la procédure en appel à leur égard conformément à l'article 94 du Code des procédures pénales militaires. Cet article dispose qu'une personne condamnée par défaut au premier degré ne peut pas être jugée par défaut au degré d'appel. Le 10 décembre, Partenariat pour la protection intégrée PPI documente 257 cas de violation commises contre les DDH et les journalistes au cours de l'année 2024. Ces cas sont rendus publics à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme célébrée le 10 décembre de chaque année. De ces 257 cas de violation documentés, 80% ont été commis par les agents de l'État, notamment ceux des services de l'ordre, des sécurités, des renseignements et de la justice. Toujours au mois de décembre, le lundi 23 décembre 2024, le ministère public requiert 20 ans de travaux forcés contre l'opérateur économique Mike Kasenga et 5 ans contre François Roubota, ancien ministre de développement rural, au procès sur le projet de construction des forages et lampadaires en RDC. Il demande à la Cour de cassation de les reconnaître coupables de détournement présumé des deniers publics. Pour François Roubota, poursuivi pour complicité avec l'opérateur économique, le procureur général l'accuse d'avoir facilité la commission du détournement. Il devrait aussi être frappé d'inéligibilité pour 5 ans à la fin de sa peine et ne devrait pas non plus bénéficier d'une quelconque libération conditionnelle ou réhabilitation. La défense des deux prévenus plaide non coupable. Ainsi prend fin la rétrospective Justice et Droits Humains. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi. Et puis ce communiqué, avant la fin de ce radio-journal, communiqué officiel, le territoire de Calais informe toute la population que ce 30 décembre à 8h, il y aura lancement officiel des travaux de construction et de la modernisation de l'espace d'accueil des filles et fils qui viennent dans le coin et recoin des 15 groupements pour des réunions, ateliers et conférences au chef-lieu du territoire Bailleur de France, gouvernement provincial du Sud Kivu, sous l'œil et les suivis du gouverneur Jean-Jacques Pouroussi, par un contrôle des honorables députés nationaux et provinciaux de Calais et Projet. Notre projet vise la construction d'une clôture de 180 mètres en bloc ciment, une construction d'une salle polyvalente avec un espace d'accueil de près des 150 personnes, une installation hygiénique et des pièces à l'intérieur pour le logement, la réhabilitation du guest house des 6 pièces VIP et un bon salon. Objectif, accompagner et soutenir le programme de développement de 145 territoires par la province du Sud Kivu, vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Enfin, résoudre les problèmes de la population et du territoire en lui dotant des espaces pour les célébrations des mariages, les conférences, réunions et plus particulièrement les capacitations en gouvernance sécuritaire et beaucoup d'autres activités de la jeunesse, des femmes et des hommes. Durer 3 mois avant l'évaluation des travaux début décembre 2024, fin mi-2025. Bonne année 2025. L'administrateur du territoire de Calais, Thomas Zirimo Bagabo Bakenga, signe ce communiqué officiel. Ainsi prend fin ce radio-journal. Merci infiniment à vous tous de l'avoir suivi. Au revoir.